Donc merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc je vais essayer à la fois de vous donner quelques éléments qui figurent dans ces travaux sur l'économie et l'écologie de l'attention, donc parler dans une première partie de l'attention un petit peu en général. Je ne sais pas si c'est un thème avec lequel vous êtes déjà familier. Je vais partir du principe que vous n'êtes pas forcément penché dessus de façon approfondie. Donc prendre 3 ou 4 idées là-dedans et ensuite se demander, mais j'espère que ça sera déjà à l'horizon de ce que je vous dis dès le début, en quoi nous autres, en tant que littéraires, en tant que praticiens des études littéraires, en tant qu'enseignants, en tant qu'interprètes, nous avons quelque chose à dire et à faire avec les problématiques de l'attention. Et en quoi ça peut être une façon de, alors justifier, je ne sais pas si on a besoin de justifier, mais disons de construire des argumentaires pour montrer la nécessité du plaisir que nous avons et de l'activité que nous menons avec des textes littéraires. Donc j'ai prévu de parler à peu près une quarantaine, cinquantaine de minutes. Je sais qu'il y a des gens qui ont des cours peut-être à 13 heures, donc si vous devez partir avant, je sais qu'il n'y a pas de souci et que ce n'est pas agressif. Donc d'abord j'ai envie de partir de une insatisfaction que j'ai avec toute une partie des discours qui se tiennent sur l'attention. Je ne sais pas, on n'a pas le temps ici de faire des sondages, mais j'imagine qu'une des associations les plus fréquentes, c'est crise de l'attention. Nous vivons une crise de l'attention au début du 21e siècle. Et à la fois cette crise de l'attention, comme vous peut-être, je la vis quotidiennement, à savoir que quotidiennement j'ai des avalanches de mails, j'ai des avalanches de choses à faire que j'ai pas le temps de faire, et je sais pas où tourner mon attention, et je perds la mémoire, et je me sens complètement dépassé. Je sais pas si c'est votre cas, moi je reconnais volontiers que c'est le mien. Oui, c'est pas idiot de dire qu'il y a une crise de l'attention, parce que moi je la vis. En même temps, ce qu'on met d'habitude derrière cette notion de crise de l'attention, ça me semble très insatisfaisant, parce que c'est en général simpliste, c'est en général, et il faut toujours simplifier, moi je suis pour la simplification, mais il y a un degré de simplification qui fait qu'on n'arrive pas à dire des choses intéressantes là-dessus, que c'est vraiment vu à très court terme, et donc une des choses à faire face à ces discours de l'attention, c'est de prendre acte du fait qu'il y a un problème, on est d'accord, d'écouter ce qu'on nous dit, et en général, lorsqu'on nous parle de crise de l'attention, d'essayer de se demander en quoi est-ce que ce qu'on dit est une ânerie, et en quoi est-ce qu'on pourrait aller un tout petit peu au-delà de l'ânerie première qui nous est proposée. Et pour faire ça, donc, il me semble qu'il y a des retours en arrière temporels qui peuvent être intéressants, et puis qu'il y a des cadrages conceptuels, ou des recadrages conceptuels, ou des décalages conceptuels qui peuvent être intéressants. Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire pendant une vingtaine de minutes au début de cette présentation. Donc d'abord, crise de l'attention, moi je suis, comme tu l'as gentiment dit, à la base spécialiste de littérature française du XVIIIe siècle, et je lis chez Diderot des complaintes récurrentes que faire cette encyclopédie, c'est pas possible, ça prend toute son énergie, qu'il y passe tout son temps, qu'il a absolument pas le temps d'écrire son œuvre, que par ailleurs, Grimm, pour la correspondance littéraire, lui demande de faire des comptes rendus de salon, que quand est-ce qu'il va faire ça, qu'il a une année de retard pour rendre ses comptes rendus de salon, etc., etc., et que l'espèce de panique permanente dans laquelle moi je suis, il me semble que le brave Diderot, il était dedans, avant Internet, avant toutes ces choses-là. Donc, le fait que nous autres humains, on n'ait jamais eu, et nous autres humains qui avons envie de faire des choses, sommes un peu curieux et puis qui bricolons, qu'on n'ait jamais assez de temps pour faire ce qu'on fait et que parfois on se sente un petit peu submergé, cette expérience subjective, à mon avis, elle n'est pas du tout nouvelle. Je lis chez un autre auteur moins connu du 18e, qui s'appelle Tiphaine de la Roche, une petite phrase comme ça, où il dit « Il y a tellement de livres qui sortent aujourd'hui, il y a tellement d'auteurs qu'il y a plus d'auteurs que de lecteurs, et ça serait rêver que d'imaginer que quand on fait un livre, il y a quelqu'un qui a assez de temps disponible pour pouvoir le lire. » 1760, d'accord ? De nouveau, c'est pas Internet, c'est pas le capitalisme, etc. Donc, il y a un temps large qui fait que la crise de l'attention, on peut dire que beaucoup, j'imagine que si j'étais spécialiste de la Grèce antique ou de Rome, je pourrais aussi trouver des choses, mais ça je suis pas, donc je peux pas le dire. Bon. Donc, méfions-nous de ça. Il y a quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup, et je ne sais pas si Stéphanie ici, il y a quelqu'un qui devait... Il y a Stéphanie qui... Non, elle n'est pas là, Stéphanie, parce qu'il y a Stéphanie Roussel, non, qui a collaboré... Je ne la vois pas, mais peut-être qu'elle est là. Ah ouais, elle est toute cachée derrière, ben voilà, parce que Donc je lui dis bonjour parce qu'on a bricolé ensemble à Grenoble et elle a traduit dans le texte collectif là un article de Jonathan Crary, je crois que c'est bien ça. Et Jonathan Crary, c'est donc un historien de l'art à New York University qui a fait un très très beau livre que je vous conseille, qui va être traduit cette année finalement en français, qui s'appelait en anglais Suspensions of Perception, dans lequel il nous montre que c'est depuis en gros 1880 que nous vivons une crise permanente de l'attention. Mais ce qu'il appelle crise permanente de l'attention, c'est beaucoup plus précis que ce que je disais sur Diderot ou sur Tiphaine Delaroche, à savoir que pour lui est lié au capitalisme industriel une dynamique qui produit de la crise de l'attention, qui reproduit constamment de la crise de l'attention. Là, c'est pas seulement dire que la vie est courte et qu'on a trop de choses à faire, c'est dire que qu'est-ce qui s'est passé à la fin du 19e, enfin, au 19e siècle, disons. On a la production industrielle, la chaîne de montage, il faut contrôler l'attention du producteur sur une tâche. Il a un geste, il a une chose à faire, et s'il ne la fait pas bien, c'est tout le bas de la chaîne industrielle qui est affecté. Donc, concentrer l'attention sur une tâche du côté du producteur. Une fois que l'industrie produit tous ses biens, ben, il faut bien les vendre, donc il faut trouver des gens qui vont vouloir les acheter, et il faut faire de la publicité ou de la réclame. Donc on a tous ceux qui nous bombardent aujourd'hui sous la notion de publicité, qui commencent à se déployer fortement à ce moment-là. Il se trouve que c'est la même période aussi où on mesure de façon scientifique les capacités du système nerveux humain à détecter des signaux, la psychologie expérimentale, et il se trouve que c'est un moment clé aussi du développement de ce qu'on appellera des médias, à savoir, et bien d'abord c'est des choses qui bricolent du cinéma avant du cinéma, le téléphone, puis le cinéma, puis la radio, puis la télévision, puis finalement Internet aujourd'hui. Et donc le décadrage temporel que nous propose Crary, c'est justement de dire, depuis ce moment-là, on a eu constamment ce besoin de contrôler le travail pour concentrer l'attention du travailleur sur des tâches industrialisées, premièrement. On a un besoin de capter l'attention des citoyens qui sont aussi des consommateurs pour leur vendre les trucs qu'on produit. Et on a des appareils médiatiques basés sur une connaissance empirique et scientifique de ce que c'est que l'attention humaine qui crée quoi, hein, la beauté, une des beautés du texte de Crary, c'est de dire que ça crée en même temps de l'attention et de la distraction. Que ce sont tous ces appareils du cinéma, d'ailleurs il y a un autre beau livre qui vient de sortir, qui est de Mireille Berton, qui s'appelle « Le corps nerveux du spectateur ». Si certains d'entre vous travaillaient sur le cinéma ou l'époque 95 ou 95 ici ? 95, ah c'est les Suisses, moi je suis Suisse donc j'ai 95, mais non, 95. En 1895 et 1915, elle a fait toute une étude sur les discours qui se tenaient sur le cinéma. Et ces discours qu'ils se tenaient sur le cinéma, ils sont très très proches des discours qu'on a aujourd'hui sur les jeux vidéo, en disant ça accapare l'attention des gens, ça les rend fous, ça les rend violents, toute une génération va être psychotique à cause du cinéma, etc. etc. Donc on a périodiquement, de nouveaux médias qui créent de nouvelles conditions et de distraction et de concentration qui font qu'on se sent dans une crise permanente parce qu'on est toujours un petit peu en retard sur ce que ces médias et ces systèmes de production, qu'il faut bien nommer capitalistes, nous imposent comme contrainte à notre attention. Donc ça, c'est le recadrage, je dirais, un petit peu à long terme. Maintenant, quand on parle de crise de l'attention, en général, on localise ça sur les, disons, 20 dernières années. Et là, donc il y a un volume de ce que je parlais tout à l'heure qui s'appelle « L'économie de l'attention ». Et si on fait une petite enquête sur ce mot « attention economy » en anglais, « économie de l'attention », on s'aperçoit qu'on l'employait très peu, voire pas, et qu'en 1995 et 16, tout d'un coup, beaucoup de gens se mettent à en parler. Et en français et en anglais, c'est presque simultané. Donc là, oui, quand même, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Et là, il n'y a pas besoin d'être très futé pour repérer que c'est le moment où Internet prend forme massivement, où on se rend compte de ce que c'est ou de ce que ça va être qu'Internet. Et là, on a effectivement, dans cette histoire à long terme que décrivait Crary, un moment de, voilà, une révolution de plus, donc c'est business as usual parce que c'est une révolution de plus, avec en même temps des conséquences beaucoup plus larges. Alors là, je ne vais pas rentrer là-dedans, simplement l'économie de l'attention, ça consiste à faire un certain nombre de constats, d'hypothèses pour en gros soutenir que l'attention, à savoir ce dont on a besoin pour recevoir, hein, pour pour jouir de, pour comprendre, pour valoriser, pour regarder des biens culturels. Cette attention qui est la ressource dont on a besoin pour que les biens culturels existent, finalement, c'est devenu la valeur la plus importante, hein, la ressource la plus rare dans nos économies. Et donc là, il y a un renversement qui se passe, à savoir, jusqu'à présent, on concevait l'économie de façon, je simplifie forcément de façon un petit peu grossière, comme optimiser des moyens pour produire de façon aussi peu coûteuse, aussi efficace, aussi bonne qualité, etc. Mais l'économie est une affaire de production, du côté du pôle de la production. Qu'est-ce que c'est que l'économie de l'attention ? C'est de dire, bah forcément, il y a toujours des soucis, des coûts de production, mais il y a tout un autre problème qui est de l'autre côté, du côté de la réception, où là, l'attention comme telle est la ressource la plus rare. On a ce discours général auquel on croit ou on ne croit pas. On a des phénomènes qui sont alors, dans les journaux tous les jours, à savoir que quelque chose comme Facebook ou Google sont les plus grandes capitalisations boursières du moment en quelques années, et que qu'est-ce que vend Facebook, qu'est-ce que vend Google, c'est notre attention. C'est devenu banal de le dire aujourd'hui. Donc il y ait quelque chose comme une économie de l'attention, que nous devions y penser parce que à la fois ça surmonte plein d'autres problèmes économiques classiques, on a toujours des problèmes de ressources rares, d'énergie, etc., et peut-être ça va être de pire en pire, mais qu'en plus il y a toute la question, une fois qu'on a produit quelque chose, que ce soit un texte, que ce soit une revue, que ce soit une émission de radio, que ce soit un film, que ce soit n'importe quel type de, disons, de discours, si on est littéraire, eh ben il ne suffit pas de le produire. Le gros problème, c'est de trouver des gens qui vont l'écouter. D'où, merci de venir aujourd'hui, parce que moi, je peux toujours parler, mais c'est rare que je parle avec des gens assis derrière et bienveillants. Donc, économie de l'attention, oui, c'est important. Maintenant, et c'est la dernière chose que je vais vous dire avant de rentrer plutôt dans des questions littéraires, c'est à la fois important et insuffisant de parler d'économie de l'attention, voire... Il y a autant de dangers et de problèmes qui arrivent lorsqu'on parle d'économie de l'attention que de possibles solutions. Pourquoi ? Parce que l'économie telle que nous la concevons aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité ou une ontologie de l'économie, mais c'est simplement à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, ça fait des années que l'économie orthodoxe est une économie, alors on peut appeler libérale, néolibérale, etc., qui a développé des modèles. Et ces modèles, ils sont basés sur la notion quand même de profit. Une économie, c'est fait pour faire du profit pour les agents de la microéconomie, ou alors de PIB, hein, de production, de calculé à travers des phénomènes marchands au niveau national. L'économie de l'attention, comme je le disais tout à l'heure, elle considère l'attention comme une ressource. Et en tant que c'est une économie, ses fondements épistémologiques, je dirais, sont fondamentalement individualistes. Qu'est-ce que c'est que l'économie orthodoxe ? C'est de dire qu'il y a des préférences des consommateurs, ménages, etc., et puis que le marché, il est là pour essayer de satisfaire ces préférences de consommateurs, comme si au début, il y avait des désirs, des subjectivités, appelez ça comme vous voulez, des demandes individuelles, et puis que l'économie, ça agrège tout ça. Tout ça, c'est pas complètement idiot, mais c'est quand même un cadre idéologique très particulier. Et si on reste dans ce cadre idéologique, attention égale ressources, on part de l'attention individuelle, et c'est une affaire d'échange et de profit ou de marchandises, on va rater ce qui, à moi, et il me semble à nous en tant que littéraire, est sans doute le plus important dans les phénomènes attentionnels. Et donc, parler d'écologie de l'attention en récusant le paradigme dominant de l'économie de l'attention, ça consiste à dire, c'est pas d'abord une affaire individuelle, mais c'est d'abord une affaire, alors soit collective, on verra peut-être ça, oui, peut-être faisons-le tout de suite, il me semble qu'il y a au moins trois niveaux de considération des phénomènes attentionnels qu'il est important de distinguer. Un premier niveau, il est intuitif, c'est mon attention à moi. Moi, en tant que sujet, je suis attentif à une page de livre. Sujet, objet, et puis je suis plus ou moins attentif, je rêvasse, etc., etc. Attention individuelle. Ici, on est dans une situation différente. Oui, vous êtes attentif à ma parole. Donc, vous pouvez dire, il y a plein de sujets assis et qui sont attentifs à l'objet qui est la parole qui sort d'ici. En même temps, votre attention détermine la mienne. Si vous vous mettez tous à regarder en l'air avec un air désespéré, je ne vais pas continuer à parler, en tout cas pas à dire les mêmes choses que je vous dis maintenant. Donc, votre attention conditionne mon attention, de même que la mienne conditionne la vôtre. Et là, on a une situation d'attention conjointe, qui implique que vous soyez peut-être attentif à la parole qui sort de ma bouche, donc vous pouvez considérer ça comme un objet, mais qu'il y a toute une autre couche qui fait que l'attention conjointe ne se réduit pas à de l'attention, une multiplicité d'attention individuelle. Il y a une troisième couche qu'on ne voit pas, parce qu'elle n'est pas ici, et en même temps, elle est entre nous, elle est partout, peut-être qu'elle est à travers les ondes ici qui passent, qui est ce que je propose d'appeler l'attention collective, en la distinguant de l'attention conjointe, à savoir où ce ne sont pas des sujets en coprésence qui sont sensibles et attentifs à l'attention les uns des autres, et ça on sait que ça commence vers 9 mois pour le bébé. Le bébé se rend compte à partir de ce stade si sa maman ou la figure paternelle fait attention à lui ou est attentif à autre chose. On s'en rend compte très très vite. Et en fait, on vit toujours, on s'oriente dans l'espace social en fonction de est-ce que quelqu'un me regarde, est-ce que, etc., etc. Donc cette attention conjointe, elle présuppose la présence de corps sensibles. Il y a une autre couche, l'attention collective, qui passe au contraire par les médias. À savoir, quand je lis mon journal chez moi, quand je regarde la télévision, quand j'écoute la radio, je ne sais pas ce que pensent les autres auditeurs, leur attention ne m'affecte pas directement. Je sais qu'elle est là, je sais que je ne suis pas le seul à écouter cette émission de radio ou à regarder ces nouvelles télévisées, mais je ne sais pas ce qu'ils ont. Et donc là, il y a quelque chose d'autre qui n'est ni de l'attention individuelle, parce que ce n'est pas simplement moi et ma télé, c'est moi et ma télé dans tout un milieu, justement, on va parler d'écologie, un milieu qui résonne avec certaines choses. Maintenant, en France, on résonne avec les réfugiés, on résonne avec la loi sur le travail, il y a plein de choses auxquelles on résonne en France, le terrorisme, etc. On pourrait raisonner sur plein d'autres choses. Il se trouve que des sortes d'attracteurs font que l'attention collective est attirée autour de certaines choses dont on parle tout le temps, pendant une certaine période. Donc, si on commence par distinguer ces trois couches, on est assez vite amené à se rendre compte que l'attention, il y a des phénomènes de ressources, d'économie, etc., mais c'est tout autant une affaire de milieu. Ici, on a un milieu, un environnement attentionnel, alors qui est très beau, avec des boiseries, des sortes d'ambiance d'église, et en même temps, un milieu attentionnel qui est composé par vos sourires, par vos regards, etc., qui fait qu'on est ensemble, et en même temps, alors, je n'ai pas écouté la radio ce matin à Montréal, donc je ne sais pas ce qui est dans vos têtes, mais si je l'avais fait, je saurais un petit peu ce qui résonne entre nous, sans qu'on ait même besoin de le dire. On sait que, je ne sais pas si le maire a dit quelque chose, ou si tel politicien a fait quelque chose, ou telle star, ou je ne sais quoi. Et donc c'est à partir de ces milieux qu'on peut comprendre les phénomènes attentionnels comme répartis sur plusieurs couches. Et c'est pour ça qu'une des raisons pour lesquelles il me semble qu'il faut parler d'écologie de l'attention. Donc pas une affaire d'individu, mais une affaire de milieu. Pas une affaire de profit. Je vous fais circuler multitude parce que j'espère que vous allez acheter multitude, mais j'y crois pas trop. C'est pas ça l'enjeu, d'accord ? Il y a un peu de ça, faut jamais nier la dimension économique de la vie. Mais il y a plein d'autres choses qui sont pas seulement du chiffrable en termes de profit, d'échange, marchand, etc. Mais en termes de milieu, justement, des problèmes de soutenabilité, des problèmes de qualité plutôt que de quantité, et des problèmes de soutenabilité plutôt que des problèmes de sustainability, plutôt que de profit. Et aussi bien de dire que l'attention, c'est pas seulement une ressource. C'est peut-être une ressource, mais c'est pas seulement une ressource. C'est d'abord une relation. Et vous connaissez peut-être le Arnénès et les gens de l'écologie profonde qui nous disent « Si quelqu'un au nom de l'écologie vient vous parler d'environnement, méfiez-vous, parce qu'il n'a rien compris. » Les vrais écologistes, au sens d'Arnénès, l'écologie profonde, ne parlent pas d'environnement. Parce que parler d'environnement, ça veut dire que vous avez un individu qui est dans un environnement. Et vous pouvez prendre le même individu et le mettre dans un autre environnement. Vous prenez un environnement et mettre un autre individu dedans. Alors, il lui dit, qu'est-ce que c'est que l'intuition fondamentale de l'écologie ? C'est le relationnisme, à savoir que l'individu n'est rien d'autre que des relations à l'environnement. Et que l'environnement n'est rien d'autre que des relations entre ceux qui y vivent, qu'on peut appeler des individus. Et donc, parler d'une écologie de l'attention, c'est se dire, on se construit constamment à travers des relations au livre, des relations au climat, des relations les uns aux autres, que ces relations, c'est pas seulement des milieux dans lesquels on est comme ça parachuté, qu'elles nous constituent constamment. Et donc, parler d'écologie de l'attention, c'est penser l'attention comme de la relation. D'où, et là je vais rentrer tout de suite dans des questions littéraires, jusqu'à présent, je vous ai parlé de l'attention, crise de l'attention, économise de l'attention, économie, au singulier, attention. Ce qui est une imposture fondamentale. Vous aurez dû m'arrêter, vous aurez dû hurler au bout de 30 secondes en disant « Qu'est-ce que c'est que ce type qui nous parle de l'attention comme si l'attention, ça existait ?» L'attention, ça n'existe pas. L'attention que je prête à ma femme qui est malade, à ma chatte qui se promène dehors, à un livre que je suis en train de lire, aux nouvelles télévisées, au type qui m'appelle pour me vendre je sais pas quoi, oui, c'est de l'attention, mais c'est des qualités d'attention tellement différentes que, de nouveau, comme lorsqu'on dit crise, j'ai envie de dire non, c'est pas parce qu'une crise, si c'est une crise permanente, c'est plus vraiment une crise. De même, lorsqu'on dit l'attention, est-ce que c'est l'attention individuelle, conjointe, collective, quel type d'attention est-ce que c'est? Et l'étape suivante, un petit peu, c'est de dire cassons cette notion d'attention au singulier, dont, petit retour en arrière, il me semble qu'il y a une justification de parler de l'attention au singulier, c'est justement du point de vue économique. Avec le développement des médias, avec le développement de ce qu'ils appellent des publics, on a d'abord eu quelque chose qui s'appelait l'audiométrie, Audimat, voilà, en France ça s'appelle Audimat, je ne sais pas comment ça s'appelle ici, hein, pour mesurer qui regarde le journal télévisé de telle chaîne plutôt que telle autre chaîne, qui était une façon de se dire, pour cette chose qu'est la télévision, on peut homogénéiser un petit peu l'attention. Depuis une dizaine d'années, on a quelque chose qui s'appelle PageRank de Google, vous connaissez l'algorithme de Google, et là il y a des discours que je trouve assez convaincants pour dire, qu'est-ce que c'est que PageRank de Google, hein, ça rank, ça classe, finalement sur un classement qu'on pourrait complètement agréger pour dire de quoi parle-t-on, sur quoi posons-nous des questions, hein, sur quoi on veut s'informer à la surface de la planète au moment T. Et là de dire que Google c'est une mesure d'homogénéisation de l'attention, parce que l'attention que je prête à ma grand-mère malade, l'attention que je prête à mon chat ou à ma chatte, l'attention que je prête à un livre, etc., souvent elle va se traduire par des demandes que je fais à Google. Hein, grand-mère qui crache et ça a l'air un peu rouge, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, vous savez que c'est comme ça, on le dit, c'est une moitié une légende, mais que Google connaît les épidémies de grippe bien avant l'Organisation mondiale de la santé. Parce qu'on peut faire des algorithmes qui font que vous repérez quand les gens parlent de tousser, quand les gens parlent d'antibiotiques, etc. Et à partir de ce moment, en écrémant ce qui se passe sur Google, on voit où sont les foyers de grippe. Oui, en quelque sorte, malgré la diversité, la pluralité des objets d'attention, des relations attentionnelles, etc., etc., on a quelque chose comme PageRank de Google qui homogénéise tout ça. Et il y a celui qui a écrit, à mon avis, le plus beau livre sur l'économie de l'attention, c'est un sociologue allemand qui s'appelle Georg Frank, qui dit « La condition de base pour pouvoir parler d'économie de l'attention, c'est justement d'avoir une mesure homogénéisante, alors que nos attentions sont infiniment diverses. » Alors, dernière chose pour faire le point sur ce qui me déplaît dans la notion de crise de l'attention dans laquelle on serait en train de vivre, c'est de nouveau une simplification de ce pluralisme et en particulier une sorte de manichéisme implicite qui dit qu'est-ce que c'est que la crise de l'attention ? C'est que les jeunes, hein, nommément vous, sont incapables de se concentrer. Les jeux vidéo, le stress de la vie, je sais pas quoi, ils sont incapables de se concentrer. On a une génération qui peut pas lire Guerre et Paix parce qu'il y a trop de pages, qui va regarder Guerre et Paix sous forme de vidéo sur YouTube, et puis qui va en parler, etc. Et voilà, ça c'est le discours classique qu'on a sur l'attention, me semble-t-il, dans ce que j'ai pu repérer. Tout ça, c'est basé sur un manichéisme qui dit se concentrer, c'est bien, et on peut plus le faire, et être distrait, c'est mal, et on y est plus ou moins condamné. À la fois, c'est pas idiot, parce que c'est vrai que c'est bien de se concentrer, et c'est vrai que souvent être distrait, ça peut être dangereux si vous conduisez, etc. Bon, on est d'accord. En même temps, ça simplifie tellement, justement, le pluralisme de ce que c'est que l'attention humaine, de ces relations très diverses que sont l'attention humaine, qu'on s'interdit, à mon avis, de résoudre les problèmes qu'on pose si on cadre la crise de l'attention de cette façon-là. Donc, d'abord, il me semble qu'il faut dire que la concentration, c'est pas un bien en soi. Il est très important de pouvoir se concentrer, et c'est beaucoup moins, à mon avis, un choix individuel que, de nouveau, une question de milieu. Si vous avez trois frères et sœurs qui hurlent autour de vous, et puis que vous vivez dans 50 mètres carrés, et puis que c'est dans une banlieue où, par ailleurs, il y a du bruit, il y a des dealers qui sont en bas, et puis vous avez peur, etc., et bien c'est clair que c'est beaucoup plus difficile de lire des poèmes amoureux français du XVIe siècle que si vous êtes tranquille chez vous, et puis... Bon, donc... Oui, se concentrer, c'est un luxe qu'il faut développer, et donc c'est quelque chose de très précieux. Mais d'abord, il faut moins blâmer les gens les jeunes, pour ne pas se concentrer, que regarder sur les phénomènes environnementaux, de nouveau, de milieu. Et ensuite, la concentration, c'est autant un danger qu'un bien. Hein, vous connaissez tous la fable du philosophe qui tombe dans un trou, hein, le philosophe qui regarde la lune et qui tombe dans un trou. On est tous un peu des philosophes à méditer, à penser, et puis on est distrait. En fait, donc, distraction, hein, de dire attention c'est bien, attention c'est concentration et distraction c'est mauvais, ça ne correspond pas du tout à la réalité qui fait d'abord que la plupart du temps on doit être distrait, à savoir on doit répartir notre attention sur différents niveaux attentionnels, sur différentes temporalités attentionnelles, différents objets attentionnels. Ça c'est l'état normal, c'est très rare et c'est complètement, on pourrait dire, antinaturel de se concentrer, hein, sur une seule chose. Nous, on aime le faire et on dit à nos étudiants de le faire en lettres et on est frustré lorsqu'ils ne le font pas, parce que pour qu'il puisse y avoir un certain type d'expérience littéraire, effectivement, il faut avoir un petit peu de silence, il faut pouvoir se plonger dans un texte et travailler sur ce texte. Donc pour nous, c'est très important, comme j'imagine pour la plupart des humains. En même temps, qu'est-ce que c'est que la distraction ? La distraction, c'est pas le contraire de l'attention, c'est être attentif à autre chose qu'à ce que l'autorité veut que vous soyez attentif. Et la distraction, d'habitude, ce que disent mes collègues professeurs, c'est « Ah, je fais mes cours, et puis les gens, ils sont sur leur téléphone, ou ils font leur mail, ou voilà. » Et c'est pas tolérable. Je sais pas, ça fait pas du bien au narcissisme, là, on est d'accord. Est-ce que c'est un crime ? Est-ce que ça peut s'expliquer ? Est-ce que c'est pas, finalement, très normal et plutôt sain que, dans certaines circonstances, l'autorité nous demande de faire quelque chose, faites attention à ce que dit le président, faites attention à ce que dit le chef, faites attention à ce que dit le prof, et puis que soit on ait déjà lu des choses là-dessus et qu'on n'ait pas besoin de le savoir, soit qu'en fait il soit un petit peu sénile et qu'il répète un truc qu'il a déjà dit la semaine dernière, soit qu'on ait une urgence absolue pour répondre à un mail, etc., et qu'on puisse soi-même justement diriger ces niveaux attentionnels, ces intensités attentionnelles qui sont toujours plurielles et pluralistes, en étant finalement le mieux placé pour juger de comment on les répartit, ces ressources attentionnelles. Moi, je trouve que c'est plutôt, il faut plutôt le reconnaître que le blâmer ou le criminaliser. Donc, la distraction, méfions-nous de cette idée de distraction. Et moi, j'ai souvent envie de dire, on n'est pas assez distrait. Le gros problème, à mon avis, de 2016, là on est en 2016, je crois, c'est qu'on est complètement obsédé par le PIB, la croissance, le chiffre du chômage. Si on prépare un avenir calamiteux pour les générations qui viennent, c'est pas du tout par distraction. Ou alors, on peut dire, c'est parce qu'on est distrait des affaires environnementales, peut-être. Mais c'est tout autant parce qu'on est hyper concentré sur chiffre du chômage, chiffre du PIB, etc. Donc on souffre et on va faire souffrir les générations à venir autant par notre extrême concentration que par nos distractions. C'est deux façons de dire la même chose, mais c'est ni la distraction ni la concentration. Alors, j'en arrive à l'attention dans le domaine des études littéraires. Qu'est-ce que nous, en quoi nous travaillons l'attention, en quoi notre approche, notre pratique, je dirais, attentionnelle, se situe dans ce cadre-là, et en quoi peut-être, je ne sais pas si c'est une réponse à la crise, mais en tout cas, c'est quelque chose dont nous pouvons parler et dont nous pouvons essayer de faire rayonner, je dirais, les mérites. Alors, il y a quelqu'un ici que je vous conseille de lire, c'est, que vous connaissez peut-être déjà, c'est Jean-Marie Schaeffer, qui est donc quelqu'un qui vient des études littéraires, qui a fait un très beau petit livre qui s'appelait « Petite écologie des études littéraires », il parle aussi d'écologie, mais qui a fait des choses sur les genres, qui a fait des choses sur la fiction. Enfin, pour moi, c'est vraiment un des grands vivants qui dit des choses vraiment belles sur la littérature. Son dernier livre s'appelle « L'expérience esthétique ». Et dans « L'expérience esthétique », il y a tout un premier chapitre qui fait une cinquantaine de pages, qui s'appelle « L'attention esthétique ». Et alors, je vais vous résumer ça très brièvement. Donc, il parle d'attention esthétique, pas seulement littéraire. Ça peut être quand vous allez voir un tableau dans un musée, quand vous regardez un film, etc., etc. Mais il dit, on a l'attention standard, qui est celle que vous avez maintenant lorsqu'on marche dans la rue, lorsqu'on lit un journal, etc. L'attention standard, c'est quoi ? C'est justement un principe d'économie. On essaye d'aller aussi vite que possible dans la capture d'informations pertinentes pour pouvoir passer à la suite. Hein, on lit une page de journal, c'est de voir les titres, et puis il y a des titres qui vous intéressent, des titres qui ne vous intéressent pas, vous lisez un peu le contenu du truc, puis une fois que vous avez saisi, vous passez à la page suivante, etc. etc. Attention standard, quand vous marchez dans la rue, vous repérez qu'il y a une personne qui vient en face de vous, vous n'allez pas lui rentrer dedans, qu'il y a un bus qui est en train de passer, qu'il y a une affiche qui vous intéresse parce que c'est un concert, etc. Il faut aller aussi vite que possible, et plutôt qu'on a catégorisé, reconnu quelque chose, eh ben on passe au suivant. Qu'est-ce que c'est que l'attention esthétique ? Il la caractérise alors à la fois par une attention qu'il appelle descendante au lieu d'ascendante, au lieu de voir plein de choses et puis d'en tirer quelques catégories, bus, danger, affiche, promesse de plaisir, etc. Au contraire, on va partir d'identification et redescendre vers des détails. Tiens, cette affiche, pourquoi il y a cette couleur-là ? Ce bus, quel est le bruit du bus ? Est-ce que c'est un bruit ? Est-ce que le bus est enroué parce qu'il est mal réglé ? Ou au contraire, est-ce que c'est un bus qui fait le bruit idéal, etc. D'habitude, on ne fait pas attention. Enfin, je ne sais pas si vous faites des sondages sur les bruits de bus. D'habitude, moi, pas. En revanche, vous pouvez tout à fait devenir sensible au noise, au bruit. Hein, c'est une qualité musicale de se dire, tiens, la vie est faite de bruit et ces bruits, on peut leur conférer une qualité esthétique. Donc, ça veut dire quoi pour Schaeffer ? On fait attention aux détails plutôt qu'à saisir des identifications. Et surtout, il dit, pour qu'il puisse y avoir attention esthétique, il faut qu'il y ait un retard de catégorisation, qu'on accepte un retard de catégorisation. Et là, il me semble que c'est absolument à la fois intuitif pour nous tous et en même temps central dans la définition de ce que notre travail, il me semble, apporte d'abord à nous et ensuite à la société en général. Retard de catégorisation, c'est quoi ? Et on peut partir de l'exemple que donne Schaeffer là, dans son livre antérieur sur la petite écologie des études littéraires, où il dit, finalement, pendant plusieurs années, la façon dont nous avons enseigné la littérature était une négation de l'expérience esthétique. Je ne sais pas si c'est le cas au Québec, à Montréal. Je sais qu'en France, ça a pas mal été le cas. Il ne faut jamais simplifier, donc les choses sont beaucoup plus complexes. Mais moi, j'ai pas mal d'étudiants qui arrivent encore à l'université, et quand on leur donne un texte à expliquer, le travail pour eux, c'est d'identifier des figures. Ben là, on a une métaphore, et puis là, il y a la Saint-Dette, et puis là, etc. Et ils font tout ce travail, puis ils arrivent au bout, et puis voilà, puis ils sont contents parce qu'ils ont fait ce qu'on leur avait appris à faire. Et c'est très intéressant de faire ça, hein, c'est un petit peu comme... Enfin, intéressant, je sais pas, mais c'est pas inutile de faire ça. Hein, c'est un petit peu comme faire des poids quand on va à la gym, ou faire du vélo sans que le vélo bouge. C'est un peu ridicule de faire du vélo quand ça bouge pas, mais ça fait du bien au cœur, ça fait bien à plein de choses. Donc moi, je suis pas du tout contre l'entraînement qui consiste à identifier des figures. En même temps, c'est une négation absolue de l'expérience littéraire, ou esthétique, parce que l'expérience esthétique, c'est justement de se dire, mes catégorisations, c'est pas ce qu'il faut. Peut-être que je peux dire que c'est une métaphore, peut-être que je peux dire qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Mais ça devient intéressant lorsque, justement, je suspends mes catégorisations, que je regarde quelque chose sans savoir comment l'identifier. Et c'est là qu'il se passe quelque chose, c'est là qu'il se passe une expérience esthétique. Donc, de tolérer, voire de cultiver un retard de catégorisation, de se dire, sitôt qu'on peut catégoriser quelque chose, eh ben c'est pas intéressant. C'est la recatégorisation qui est intéressante elle-même, c'est ça que nous faisons lorsque nous lisons des textes, et donc c'est les points aveugles, c'est pas les signaux, mais les bruits du texte sur lesquels nous travaillons. Alors là, on a une définition à la fois de l'attention esthétique et du travail littéraire qui me semble alors très à la fois simple, enfin, je ne sais pas, peut-être, je sais pas si j'ai réussi à le simplifier, et puissante. Parce qu'à partir de là, il me semble qu'on peut de nouveau repenser toute une série d'autres choses. Alors, peut-être, donc rapidement, faisons le point. Qu'est-ce que ça nous dit sur la littérature ? Moi, je ne vais pas vous dire ce que c'est que la littérature, je ne sais pas. Je sais que souvent, nous avons tendance, et ce n'est pas du tout idiot, à penser la littérature en termes de corpus. Apollinaire, c'est la littérature. Le Monde, le journal quotidien Le Monde, ce n'est pas de la littérature. L'annuaire de téléphone, ce n'est pas de la littérature. Montaigne, c'est de la littérature. Bon. On sait que ce n'est pas simple d'affaire de corpus, parce que est-ce que Montaigne, c'est la philosophie plutôt que la littérature, etc. On s'est battu là-dessus. De toute façon, on parle en termes de corpus. Et de nouveau, ce n'est pas idiot, il y a plein de justifications à faire ça. Ce que nous pousse à faire Schaeffer et ce que j'essaye de faire aussi moi depuis quelques années, c'est de dire la littérature, c'est d'abord un style attentionnel. C'est un style attentionnel. C'est une certaine façon de faire attention, on va dire pour aller vite, à des textes ou à des discours, même s'il y a quelque chose qui s'appelle la poésie sonore, où ce n'est pas forcément des textes et des discours, mais ça peut être du son, etc. Donc les choses, de nouveau, sont plus complexes. Mais c'est essentiellement un style attentionnel, une manière de faire attention. Et qu'est-ce qui caractérise, ou alors on peut dire qu'on crée des environnements attentionnels. C'est des petites écologies de l'attention que proposent les études littéraires. Donc, une écologie de l'attention parmi d'autres, une relation attentionnelle parmi plein d'autres, ni forcément meilleure, ni forcément plus noble, je ne sais pas, c'est une parmi d'autres, pluralisme dont je parlais tout à l'heure, qui se caractériserait par quoi? Je dirais qu'il se caractériserait d'abord par ce qu'un autre chercheur sur l'attention, qui s'appelle Dominique Boulier, a identifié un certain nombre de ce qu'il appelle des régimes attentionnels. Il y a alerte, on imagine bien alerte. C'est pas ce qui va nous tomber dessus, on regarde partout autour de nous, etc. Là, on est maintenu dans des états d'alerte, à mon avis, complètement artificiels et funestes, sur le terrorisme. On est sûr qu'on va avoir un barbu qui va nous planter des couteaux dans le dos. Ce qui arrive quand même très peu, je veux dire, je m'excuse, c'est beaucoup plus dangereux de prendre vos vélos qu'un barbu vous plante un couteau ou vous mitraille, à mon avis. Bon. Ça n'a pas la même signification, n'empêche qu'on surestime complètement dans nos envoûtements médiatiques l'impact, et donc on fait exister le terrorisme par l'attention qu'on porte au terrorisme. Alors c'est pas, on ne peut pas dire que demain plus personne ne parle des attentats, ça serait trop simple et c'est pas réaliste. N'empêche que, au moins que les journalistes aient un tout petit peu conscience du fait que plus ils en parlent, plus ils contribuent à valoriser le terrorisme en le faisant exister de façon médiatique. Donc, alerte, c'est le régime dans lequel on serait. Qu'est-ce que serait une des caractéristiques du régime littéraire ? Ça serait d'abord un régime de fidélisation. Un autre terme que propose Boulier, c'est justement fidélisation. Et ça veut dire quoi, fidélisation ? C'est peut-être une autre façon de revenir au principe d'autorité. Un principe d'autorité, on nous dit, ah oui, avec Descartes, hein, jusqu'à Descartes, hein, médiéval, etc., parce que Aristote l'a dit, c'était vrai. Puis arrive Descartes et la modernité, c'est pas parce qu'Aristote l'a dit que c'est vrai, soit il faut utiliser notre raison, soit il faut utiliser des preuves empiriques, des expériences, des appareils de mesure, etc., etc. Bon, il me semble que nous autres littéraires, on doit se revendiquer du principe d'autorité. Cette attention, hein, ce style attentionnel de la littérature, ça consiste à dire l'auteur a toujours raison. Quoi qu'il ait dit, par principe, l'auteur a toujours raison. C'est pas toujours facile. Parce qu'il y a des gens qui s'appellent Céline, qui font des textes antisémites. Parce qu'il y a des braves gens comme Rousseau qui font des textes vraiment bêtement sexistes et antiféministes. Lorsque Rousseau écrit que la femme, en gros, est là pour plaire à son mari, c'est pas idiot, parce que c'est bien de se plaire les uns aux autres. En même temps, quand vous lisez, je sais pas, le livre 5 de l'Émile, je crois, où il développe toute sa théorie de la femme, c'est difficile pour nous de l'accepter comme telle. Pour moi, le défi... Contrairement peut-être à la philosophie, je ne suis pas philosophe, mais j'imagine qu'on pourrait travailler différemment en philosophie, pour moi le défi de la littérature, c'est de se dire Rousseau a toujours raison, même lorsqu'il dit quelque chose avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Et donc ça fait de nouveau bruit, hein, ça fait, c'est pas, mes catégorisations ne fonctionnent pas, donc il faut que je recatégorise. Pourquoi Rousseau dit que la femme doit être comme ça? Pourquoi, moi j'aime beaucoup Spinoza, pourquoi Spinoza, le brave homme, il est mort juste 2 jours trop tard? Pauvre Spinoza, parce qu'il était en train d'écrire le traité politique, et il finit, le traité politique est inachevé, mais le dernier paragraphe, c'est pour dire que les femmes sont exclues de la politique a priori. Moi, je serais ennuyé, parce que j'aime beaucoup Spinoza, et là, il dit visiblement une ânerie. Les plus belles interprétations de Spinoza, c'est ceux qui arrivent à nous faire comprendre pourquoi il en arrive à dire une telle ânerie, à partir d'implicite, qui néanmoins est juste et qui nous fait penser différemment, non pas tellement aux femmes, mais aux humains, aux catégorisations, aux classifications, etc. Donc le principe d'autorité, il me semble que nous, on en est porteurs en littérature, c'est de se dire, ce qui est sorti de l'auteur tel que c'est sorti, c'est notre travail, c'est nous qui devons nous transformer, c'est nous qui devons altérer, refigurer, reconfigurer nos catégorisations pour pouvoir rendre compte de façon positive de ce qu'il nous dit. Et c'est là le défi. Justement pas de savoir, on sait que les femmes ne sont pas inférieures aux hommes, ça oui on le sait, mais il faut le défendre. Pourquoi Rousseau a pu dire ceci, comment ça nous fait relire Rousseau différemment, sans du tout être d'accord avec ce qu'il dit ici, il me semble que c'est ça le défi d'élève. Et ça c'est fidélisation. Par a priori, c'est un auteur, il ne peut pas se tromper, et c'est nous qui sommes dans une position quasi religieuse de fidélité face à cet auteur. Qu'est-ce que c'est que notre travail aussi de l'attention littéraire ? C'est forcément aussi un travail de recontextualisation. Recontextualisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire justement replacer un discours, une phrase, l'usage d'un mot, dans des contextes qui ne sont jamais des contextes qui sont déjà donnés, des contextes forcément que nous construisons. Et on retombe sur une histoire d'écologie de l'attention. Le sens de cette phrase va être conditionné par l'environnement dans lequel je la resitue. C'est donc bien la relation. La phrase n'a pas de sens en elle-même. C'est la relation de cette phrase dans ce milieu-là, dans cet environnement, appelons ça un contexte, qui va faire la signification que je trouve dans le texte. Et ce contexte, forcément, il peut être tout à fait historique. Et là, je dirais, c'est d'autant plus intéressant parce que ça nous fait sortir de nous-mêmes, ça nous fait sortir de nos catégorisations. Donc la lecture contextualisante, historiciste, elle est à mon avis absolument nécessaire, indispensable, enrichissante, dans la mesure où on a toujours tendance à projeter nos propres catégories actuelles sur les textes et à mécomprendre le texte en y lisant nos propres petites obsessions, nos propres petits imaginaires, plutôt qu'autre chose qu'on pourrait y trouver, si on connaissait mieux la culture dont il est émané, une culture différente dans la géographie, une culture différente dans l'histoire. En même temps, ces contextes, ces milieux qui nous permettent de construire du sens, ils sont toujours un petit peu nos milieux, à savoir qu'on ne peut pas, et je crois non seulement on ne peut pas, mais je vois pas pourquoi on le ferait, de se dire on va regarder Rousseau depuis la planète Mars sans savoir qu'on est en 2016 et puis qu'il y a des questions sur le féminisme, sur la nature, sur l'éducation, qui sont des questions contemporaines. Donc ça, d'une part, on ne peut pas y échapper. D'autre part, il me semble que c'est ça qui nourrit tous nos gestes interprétatifs, mais que c'est toujours un choix de contextualisation, et c'est nous à dire cette attention, qui est une attention donc basée sur la fidélisation, qui est une attention contextualisante, on prend la responsabilité de nos contextualisations parce que la lecture des textes littéraires est faite pour quelque chose. Elle est faite pourquoi ? Pour nous faire du plaisir. Pour quelque chose, c'était une imbécilité. Elle est faite pour plein de choses différentes. Nous faire plaisir, nous donner de la culture, etc., etc. Mais aussi, me semble-t-il, nous faire contribuer au travail constant de, justement, recatégorisation. Qu'est-ce que c'est qu'une culture ? Dans la mesure où une culture est vivante, c'est une culture qui hérite de catégories, qui a besoin de ces catégories pour s'orienter dans le monde, pour donner sens au monde, on n'y échappe pas, mais qui est vivante dans la mesure où elle recatégorise constamment. Et ça serait quoi notre travail à nous, mais je dis nous littéraires, là vous êtes dans étudiants, enseignants, etc., mais c'est le travail de quiconque regarde un film ou de quiconque lit un roman ou justement a une attention un tout petit peu esthétique face à un tableau ou face à quoi que ce soit, on est tous en train de recatégoriser, de corriger, si on veut, d'amender, d'ajuster les catégories qu'on avait face à l'extériorité que sont les œuvres, les textes, les réalités. Et je parlais tout à l'heure de contextualisation historique, c'est une forme d'extériorité que la contextualisation historique. Alors cette recatégorisation, j'aimerais bien l'appeler peut-être reformulation. Il me semble que nous, notre rôle, mais de nouveau, on est tous un peu littéraires, enfin, il faudrait qu'on soit tous un peu littéraires, je ne sais pas si c'est forcément le cas ou si ça va être le cas, mais moi je trouve que ça serait plutôt bien. On recatégorise, je dirais, et on essaye de reformuler cette attention qu'on fait porter sur, disons, des textes, pour aller vite, sur des discours. Ensuite, on la porte sur un moment de reformulation. On se redonne des mots qui sont toujours justement des relations. C'est une relation entre mon vocabulaire d'aujourd'hui, le vocabulaire dont j'hérite, le vocabulaire avec lequel je fonctionne, et puis cette extériorité qu'est le vocabulaire d'un auteur, qui est d'autant plus extérieur s'il écrit au Moyen-Âge et que j'ai des problèmes pour simplement comprendre la langue, donc je dois recourir à des dictionnaires, ou forcément si c'est une langue étrangère, mais qui est déjà extérieur si ça a été écrit il y a 100 ans, il y a 50 ans, voire même il y a 10 jours. Donc c'est de construire une relation qui à la fois s'affronte à cette extériorité. Et là, je reviens sur la définition même de l'attention. Je fais une petite parenthèse, ma phrase ne sera pas finie avant 5 minutes. Donc, être attentif, tout à l'heure je disais avec Schaeffer, l'attention esthétique, c'est retard de catégorisation. Il y a un autre livre très beau sur l'attention qui est sorti en 2014, je crois, de Nathalie Depraz, D-E-P-R-A-Z. Si vous vous intéressez à l'attention, je vous conseille vivement de lire ce livre qui s'appelle « Attention et vigilance ». Nathalie Depraz, c'est une philosophe, alors elle est très, très, très sérieuse, phénoménologue, qui lit Husserl, hein, qui est vraiment une des meilleures spécialistes de Husserl, et elle fait un livre, vraiment un livre très, très gros et très important, sur l'attention à partir de Husserl, mais aussi des neurosciences, etc., etc. Et c'est une des meilleures façons de contrer le manichéisme de l'attention dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir, on dit, se concentrer c'est bien, être distrait c'est mauvais, parce que quand on creuse ce que c'est que l'attention humaine à travers ses outils de phénoménologie, etc., etc., il en arrive à dire, le plus important, oui c'est bien important de se concentrer de temps en temps, mais le plus important dans l'attention, c'est justement de suspendre, alors, on pourrait dire les catégorisations, mais de s'ouvrir à quelque chose, pourquoi on n'a pas de capacité de perception. Et là, il me semble que ça correspond tout à fait à notre idée. Qu'est-ce que c'est qu'être attentif à quelque chose ? Même le mot être attentif, c'est justement regarder une fois qu'on a déjà vu. On a vu quelque chose, on a identifié, et puis on regarde. Et cette attention, souligne Duprat, implique une ouverture. On ouvre quelque chose. On ne sait pas ce qui va en ressortir. Si on savait déjà, il n'y aurait pas besoin d'être attentif. On s'ouvre à une extériorité, on s'ouvre à quelque chose qui va nous aliéner, qui ne sera pas nous, mais qui va nous enrichir parce que ça va nous aliéner, hein, qui va nous faire devenir autre que ce qu'on est. Donc, j'essayais de dire, je reprends là la phrase que j'avais interrompue, les études littéraires, ça implique un moment d'attention réceptive. On s'ouvre à l'altérité du texte, à l'altérité de la période dont vient le texte, du milieu social, de la langue, etc., etc. Et on essaye d'en rendre quelque chose, que ce soit rendre quelque chose sous la forme de parler avec des amis, lorsqu'on parle d'un livre qu'on a lu, que ce soit sous la forme d'un travail universitaire, sous la forme d'un article, d'un livre, etc. Et lorsqu'on rend ceci, justement, on doit construire une relation avec de l'étrangeté, avec de l'étranger, et reformuler le sens. Le sens, la signification ne vient que de ces reformulations ou refigurations. Et là, je vais conclure là-dessus. Les études littéraires, il me semble, une des choses les plus importantes qu'elles peuvent nous apporter dans le cadre d'une écologie de l'attention, c'est de nous faire développer ce réflexe de toujours mettre en crise, je reviens au mot de crise, ou disons mettre en question, les figures que nous repérons dans des fonds. Et là, ce rapport figure-fond, il me semble qu'il est fondamental, de nouveau, pour rendre un petit peu plus complexe le discours sur l'attention. A priori, être attentif, c'est identifier des choses. De nouveau, c'est repérer des figures. Il n'y avait rien, et ben, je repère ici une fenêtre, là une bouteille, si j'ai soif, là une montre parce que j'essaye de ne pas trop dépasser le temps, etc. Donc on fait émerger des figures. Qu'est-ce que c'est être attentif selon Duprat ? Quelqu'un qui creuse, qui regarde comment ça fonctionne au niveau phénoménologique les phénomènes attentionnels, et ben c'est justement de faire émerger des figures nouvelles, des figures non identifiées à partir de ce qui était simplement un fond, un environnement. Et c'est vraiment le rapport de transformation d'environnement en figure, de fond en figure, qui consiste, enfin qui donne la valeur de notre travail de reformulation littéraire, notre travail simplement d'analyse littéraire. Et c'est là où il me semble qu'on a quelque chose à faire valoriser comme méthode dans ce travail d'adaptation constante de nos catégories au fur et à mesure des transformations de nos sociétés. J'en prends trois domaines, trois points très rapidement et après je vous promets que je m'arrête. D'abord justement l'éco-critique. L'éco-critique, eco-criticism, de revisiter les textes littéraires du point de vue de ce qui peuvent nous amener comme sensibilisation, comme connaissance, comme lucidité sur des problèmes environnementaux. On peut travailler au niveau thématique. Qu'est-ce que Rousseau nous dit de la nature, etc., etc. Et c'est très bien, je n'ai forcément rien contre. Mais on peut se dire qu'on est déjà dedans à partir du moment où on fait du travail littéraire. Que c'est déjà justement de raisonner en termes de fond et de figure, en termes d'environnement, en termes de milieu, qu'en faisant des études littéraires, nous faisons ça. Et donc que simplement en réfléchissant sur le style attentionnel qu'est la littérature, nous contribuons déjà à expliciter ces problèmes de rapport entre fond et figure. Deuxième dimension rapide, le pluriculturalisme. Alors, je ne sais pas, en France, quand on dit multiculturalisme en France, en général, c'est le diable qui arrive avec maintenant une barbe et des... Bon. Donc, moi, je dis pluriculturalisme, en plus, peut-être pas inintéressant. Tout ce que je vous ai décrit jusqu'à présent sur ce travail d'attention à l'étrangeté du texte, à cette ouverture dont parle Duprat à quelque chose de alien, hein, de fondamentalement étranger, et c'est pour ça qu'on a besoin d'être attentif, c'est pas pour reconnaître, mais c'est pour commencer à identifier des choses qui émergent d'un fond, ça c'est central à partir du moment où, comme je le disais, on le reformule, c'est central dans la négociation entre les cultures. Donc de se dire le travail que nous faisons, nous, à partir de textes littéraires, à partir du moment où on ne le fait pas tout seul. Alors, tu me parlais tout à l'heure de François Cusset qui a fait un très très beau texte pour regarder comment les contemporains parlent de la lecture et comment il y a, pas universellement forcément, mais largement une sorte de point aveugle qui fait qu'il y a des pratiques de lecture collective, De nouveau, c'est un petit peu comme je disais, mais il y a le sujet et l'objet, c'est comme ça qu'on pense l'attention en général, mais après, il y a des effets d'attention conjointe, collective, etc. Donc, de se dire, en particulier dans les milieux scolaires, lire des textes, c'est des sujets qui lisent des objets-textes, mais c'est aussi le fait d'en parler, de partager des interprétations, et le partage des interprétations, hein, la mise en relation de ces relations au texte que sont nos attentions littéraires, c'est un lieu tout à fait privilégié pour plein de raisons, parce qu'en général, on ne se tue pas à propos de textes littéraires, on se tue à propos de textes religieux, mais à propos de textes littéraires, pas encore. Et pourtant, c'est un peu des mêmes choses qu'on peut parler. Les problèmes d'interprétation en termes de méthode et les problèmes de contenu, d'essayer faire sortir du texte des valeurs qui nous orientent dans la vie, on peut le faire aussi bien à partir de textes littéraires que de textes religieux. Et donc là, on a tout un terrain d'exercice où ce sont bien les recatégorisations des valeurs sociales qui se jouent lorsque nous parlons de la signification de cette phrase de Rousseau sur les femmes, sur la nature, etc. Et dernière chose, toute la question dont j'étais parti un petit peu à propos de l'économie de l'attention, du numérique, de ce qui nous arrive en gros, commence à parler de façon massive depuis 1995, qui crée, nous dit-on, ces problèmes attentionnels, ou en tout cas qui les exacerbe. Qu'est-ce que c'est que le numérique? Une façon, alors forcément qu'il le simplifie et qui va très très vite, c'est que l'algorithme est un facteur d'accélération ou d'anticipation. Et là, on peut assez facilement, de nouveau, c'est facile, c'est simple, c'est simpliste, n'empêche que de se dire, d'un côté, on a du numérique qui accélère tout, et c'est un petit peu ce qui nous fait des problèmes attentionnels, mais qui de plus en plus anticipe. Hein, typiquement, vous tapez une recherche de mots sur Google, et puis Google finit votre mot avant vous, voire ajoute des adjectifs ou des compléments auxquels vous n'aviez pas forcément pensé, et qui pourtant souvent ne sont pas idiots, ça vous aide, ça m'aide, c'est pas que vous, hein, ça nous aide à trouver des choses. On voit bien que là, au contraire d'un retard de catégorisation, on a une anticipation de catégorisation. Hein, tout le numérique, sa beauté, parce que ça fait sa force. Et en même temps, l'autre phase qui est le danger, c'est que ça anticipe nos catégorisations. Et là, il me semble qu'il y a vraiment un discours pour nous à tenir. L'attention esthétique telle que la caractérise Schaeffer ou les études littéraires telles que nous les pratiquons, en tant que le retard de catégorisation et tout ce que j'ai essayé de décrire là depuis 20 minutes sur l'attention littéraire, c'est... Alors, dire le contrepoison, ça veut dire que le numérique est un poison, ce qui n'est pas du tout vrai, mais c'est ce qui fait un effet de balance, un effet de rééquilibrage face aux avantages, par ailleurs, de l'anticipation qui est produite par le numérique. Dernière chose, il y a une théoricienne, alors beaucoup plus large que le phénomène d'attention, mais qui a dit des choses très très belles sur l'attention, qui s'appelle Catherine Hales, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est une professeure à Duke, Catherine Hales, qui a fait un très très bel article sur des questions attentionnelles, justement, qui remet en question le manichéisme en disant les jeunes sont distraits, et puis c'est bien d'être concentré, c'est mauvais d'être distrait, etc., etc. Elle, je ne suis pas la seule d'ailleurs, je vais chercher ça chez elle, mais on trouve ça chez plein d'autres gens, j'en suis sûr, parle pour un pluralisme des études littéraires. Et elle dit qu'il y a un des dangers de notre conception de la littérature, c'est justement de tomber dans ce manichéisme et dire « la littérature, c'est l'explication de texte ». Et moi, je suis parmi les premiers à dire que la littérature, c'est l'explication de texte. Parce que pour moi, c'est une expérience fondamentale, et c'est ce qu'il y a de plus beau, et c'est ce qu'il y a de plus jouissif, et voilà. Donc, il ne s'agit pas du tout pour elle de dire « close reading hein, », la lecture de près, l'explication de texte, c'est pas intéressant, mais elle dit qu'il faut penser les études littéraires comme pluralistes, et donc en plus de l'explication de texte qui est indispensable, il y a ce qu'elle appelle avec Moretti, Franco Moretti et d'autres, distant reading, lire les choses de loin. Là, soit on peut se baser sur Moretti, soit on peut se baser sur ce livre que moi j'avais adoré, je sais pas s'il a eu autant de succès au Québec qu'en France, qui est Pierre Bayard, comment parler des livres qu'on n'a pas lus. J'espère que vous avez tous lu ça en arrivant. J'espère que c'est une lecture obligée des études de lettres à l'UQAM. Moi, tous mes collègues français sont sentis personnellement agressés par ce livre et auraient volontiers, s'il y avait des bûchers, je suis sûr que Bayard aurait été le premier à brûler. Parce que ça donne l'impression que les profs de lettres sont tous des fumistes, qui font cours sur des livres qu'ils n'ont pas pris la peine de lire, que ce que Bayard fait, c'est apprendre à des étudiants de faire semblant pendant un examen de parler d'un texte qu'il n'a jamais eu envie de lire et puis qu'il n'ira jamais parce qu'il est trop bon pour ça, et donc que c'est calamiteux pour tout l'enseignement des lettres. Bon. Pierre Bayard fait de la provocation, il a très bien réussi dans ce cas-là, comme souvent, bravo, c'est rigolo, mais son livre, me semble-t-il, est très très profond. Pour moi, c'est un des livres les plus profonds sur ce que c'est justement que l'attention au livre, Et ce qu'il appelle ne pas lire, hein, comment parler des livres qu'on n'a pas lus, il fait toute une catégorisation de ne pas lire. On a une sorte de nouveau de simplification qui dit que lire, c'est lire en détail, du premier mot au dernier mot, et que le reste, si on ne fait pas ça, on ne lit pas. Alors qui dit, ben, lire la quatrième de couverture, c'est déjà lire quelque chose. Entendre l'auteur qui fait un entretien, au, là, vous n'avez pas lu mon bouquin sur l'attention, en même temps, vous avez vu, lu un peu mon bouquin sur l'attention parce que vous m'avez entendu parler. Donc vous avez bien un rapport, une relation avec mon livre sur l'attention à travers ce que je dis maintenant. Donc vous ne pouvez pas dire que vous ne l'avez pas lu. Non, vous ne l'avez pas lu, si lire, ça veut dire du premier. Mais, et donc, il fait toute une gradation de ces lectures, où on lit un chapitre et pas tout, on lit l'introduction et pas tout, on regarde la table des matières, etc. etc. Et ça, justement, ça nous dit, c'est de la distraction, mais c'est de la distraction absolument nécessaire. Être un chercheur en lettres, si on parle dans une université, faire de la recherche, de plus en plus, alors c'est peut-être parce que je deviens vieux et sénile, mais moi, de plus en plus, la recherche, je la fais avec les doigts dans les livres. À savoir que je vois un petit peu de quoi ça parle, et puis je comprends assez vite de quoi il est question, parce que j'en ai lu pas mal avant, etc. Et tout d'un coup, je tombe sur « Ah bah tiens, là, il y a un chapitre, ça, j'y avais jamais pensé, puis je ne l'ai pas vu ailleurs, etc. » Et là, tout d'un coup, je lis bien. Et il y a des livres que je lis du début à la fin. Je suis en train de lire maintenant, je vous conseille d'ailleurs, « The Stack » de Benjamin Bratton. Si vous voulez réfléchir au numérique, « The Stack » de Benjamin Bratton, c'est 300 pages, mais pour le moment, je suis à la page 150 et j'ai tout lu. Donc ça arrive aussi. N'empêche que d'apprendre à ne pas lire un livre, d'apprendre à écrémer et à faire... Ça, on sait tous que ça fait partie de la recherche et que c'est aussi important. Donc ce distant reading, on en a absolument besoin. D'autant plus, pour revenir au sujet du début, que justement, il y a tellement de pléthores de choses qui paraissent que pour se situer, on est forcé de regarder les choses de loin. Et si on ne fait pas ça, si on ne parle que des... Si on ne prend en considération que les livres qu'on a lus du début à la fin, ben on est complètement largué. Ce n'est pas possible. On ne fait pas vraiment du travail de recherche. Et finalement, nous dit Catherine Hales, il y a machine reading. Et machine reading, c'est close reading, distant reading, et machine reading, c'est d'utiliser des fonctions de recherche de mots, c'est d'utiliser tout ce que le numérique nous permet de faire pour utiliser l'attention des machines, l'attention algorithmique, pour enrichir notre propre attention. Et que les études littéraires, c'est peut-être bien justement de les mettre au pluriel, parce que c'est la multiplication d'effets de relations entre ces trois niveaux, de même que l'attention, ça n'existe pas au singulier, il y a une attention individuelle, il y a une attention conjointe, il y a une attention collective, et que les trois se superposent presque toujours, quand je suis tout seul chez moi, il n'y a pas d'attention conjointe, etc. Mais que c'est donc penser ce pluralisme de l'attention qui est une condition pour de la bonne attention. Qu'est-ce que c'est que de la bonne attention? C'est ma dernière phrase, ça se basera sur Nathalie Deprat de nouveau. Elle prend le mot de modulation. Modulation. Une bonne attention, c'est une adulation. Une bonne attention, c'est une attention qui sait moduler en fonction des besoins, en fonction des circonstances, en fonction des socialités, etc. Soit des concentrations très intenses, soit au contraire d'écrémer et de voir plein de choses, d'aller très vite, etc. Et c'est cette capacité de modulation entre un pluralisme de formes attentionnelles qui fait la qualité de l'attention, et je m'arrête là-dessus.